maintenant votre émission La Voix du Chien à trois pattes pour découvrir les jazz d'aujourd'hui. Aimez-vous le jazz?
Oh, bien sûr, oui.
Non, bien sûr que non.
Oui, j'aime certains jazz.
Des fois,
j'adore le jazz, je suis là pour ça.
Ouais, c'est pour ça que je suis là.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Calade 5.9. Soyez les bienvenus dans votre émission La Voix du Chien à trois pattes. Je suis ravi de vous retrouver, chères auditrices, auditeurs. Ce soir, je suis toujours avec Dédé La Technique. Bonsoir, bonjour, Dédé.
Bonsoir, tout au moins, c'est mieux, oui.
Tu vas bien?
Impeccable.
Bon. Et avec Philippe. Bonsoir, Philippe.
Bonsoir, Richard. Bonsoir, Dédé. Comment allez-vous?
Bonsoir, Philippe.
Impeccable. Alors, ce soir, nous allons vous parler d'un très grand. Et alors, parce que nous avons manqué de fêter le centenaire de sa naissance en 2017. Alors, je me suis dit, il fallait rattraper ce retard.
Mais est-ce qu'on peut faire un jeu de devinette?
C'est-à-dire?
Nous avons manqué...
Ah, elle est bonne, celle-là. Ah, elle est bonne, elle est bonne.
Ah, bah non, Philippe.
Elle est bonne.
Et il ne nous manquerait plus que ça.
Voilà. Tout ça parce qu'il s'agit de...
Thelonious Monk. Monk.
Voilà.
Moi, je trouve qu'il est en pleine forme, Philippe.
À la très grande forme.
Ah, je finis l'année, je vous dis pas.
Bravo, bravo. Alors, on va commencer par le début.
C'est mieux.
Voilà, c'est mieux. Donc, Thelonious Monk, qui est né donc en 1917, qui est mort en 1982, c'était un pianiste. Alors, c'est-à-dire, en fait, il a commencé par le piano, il a voulu aller vers la trompette, mais comme il avait quelques problèmes de bronches, il est resté au piano. Compositeur américain de jazz, il était très célèbre pour son style d'improvisation. D'ailleurs, Philippe nous en parlera plus longuement au cours de l'émission.
Hein.
Il a écrit des très nombreux standards de jazz, on est d'accord?
Oui, tout à fait.
Voilà. Il n'est pas né à New York, mais il a grandi à New York. Pas dans le quartier où allaient tous les noirs américains.
Assez étrange,
c'est un peu étrange. Et c'est ses parents qui avaient le choix.
Ouais, tout le monde était à Harlem, mais lui, il était Brooklyn, c'est ça? Non, il est de Manhattan.
Manhattan. Ouais. Alors, c'était un très bon élève, très doué en maths, qui a d'ailleurs été intégré dans une très grande école mathématique, mais il a préféré abandonner pour se retourner vers la musique, tout simplement. C'était sa passion, bon voilà, c'était son choix. Donc il va commencer d'abord à jouer du piano classique, et puis il va étudier ce qu'on appelle du piano stride.
Oui.
C'est une sorte de piano jazz, hein, c'est ça Philippe?
Oui, piano jazz qui vient de la grande tradition du ragtime.
Voilà.
La main gauche est très puissante et alors lui il a développé parce que la main gauche est très puissante et la main droite elle développe l'harmonie.
D'accord.
En gros, hein, bien sûr.
Ouais. Alors il va jouer dans des clubs avec tout d'abord un quartet qu'il a formé à l'âge de 20 ans. Il jouait jusqu'au petit matin avec les futurs grands de l'époque, hein, Charlie Parker, Charlie Christian, Oscar Pettiford ou encore Bud Powell d'ailleurs.
Alors, il faudra revenir tout à l'heure sur le pourquoi du comment tous ces gens-là ont joué ensemble.
Ah bah tu nous diras.
Oui,
d'accord.
C'est important de faire une petite précision.
Tout à fait. Ouais. Donc d'ailleurs tous ces premières compositions ont été jouées par ses contemporains. Mm-hmm. Hein, faut pas oublier. Donc il monte son niveau.
Quand même. Oui, tout à fait. Ouais,
d'accord. Alors, il va commencer à composer assez jeune, mais par contre, il ne va pas enregistrer tout de suite, pas avant 1944. C'est comme ça. Il va fréquenter quotidiennement la pianiste et compositrice Marie-Lou Williams,
qui était déjà bien dans le milieu et qui a fait une carrière plus qu'intéressante. Mm-hmm. Si vous intéressez à elle, écoutez-la sur les instruments, entre autres, bon, c'est des siens bien sûr, mais aussi de Quincy Jones.
Ouais, et qui va beaucoup l'aider, l'animer une émission de radio, par exemple, elle l'invitait, etc. Quoi. D'ailleurs, elle va aider tous ces groupes de musiciens,
plus
entre autres. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, malgré tout ça, Monk, il est très connu dans ce milieu de jazz, mais il ne va pas rencontrer le succès tout de suite, ça va prendre du temps.
Oui.
Pourquoi? On en reparlera un peu après. C'est un peu... Parce que la musique, bon, peut-être pas assez accessible, on va voir. Mais pour justement illustrer tout ça, je propose d'écouter un de ses premiers enregistrements, qui est Round Midnight, qu'il a composé entre 1941 et 1944, voire peut-être même écrit en 1936, bon, peu importe. Et là, on va l'écouter, mais c'est un enregistrement qui est un peu plus récent, puisque je crois qu'il date de 1966. Hein, voilà, vas-y, Dédé.
Thank you.
Voilà, c'était Round Midnight, donc toujours de Thelonious Monk. Donc Philippe, explique-nous pourquoi, comment ils sont retrouvés, tous ces musiciens.
Oui, je reviens, juste on va faire court sur le pourquoi du comment. En fin de compte, tous les musiciens bop en 1941 avaient un petit peu du mal à la fois à manger et au fait que leur musique soit reconnue. Tout simplement parce qu'il faut se remettre dans le contexte. On est en 1941-42, c'est le moment où tout le monde se retrouve dans un club qui s'appelle le Mintons. Ces gens-là, forcément, vont faire une musique qui va complètement casser la musique précédente, qui était une musique de danse, où nous sortons et nous sommes en pleine époque swing. Donc tout le monde, qu'on soit blanc ou noir, parce qu'il y avait des orchestres qui étaient plutôt blancs, genre Glenn Miller, genre comme ça, puis des orchestres plutôt noirs, genre Count Basie ou Kennington, mais les gens, qu'on soit blanc ou noir, ils y allaient pour danser. Et quand tous ces musiciens-là sont arrivés, ils ont inventé le bebop. Bebop qui vient simplement parce que ils chantaient bebop. Ça s'est transformé tout simplement en bebop. Et tous les Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Thelonious Monk, Bud Powell, Tad Dameron et tous ces musiciens-là ont modifié les structures harmoniques, ont pris des tempos qui étaient infernaux, et donc forcément, par la force des choses, les gens se sont assis.
Et est-ce que c'est dû à la guerre ou pas?
Oui, certainement oui, parce que de toute façon, bon, on ne peut pas développer ici tout dans cette émission, mais quand on parle du jazz, et surtout aux États-Unis, on ne peut pas ignorer le climat social, et on ne peut pas ignorer tout ça. On ne va pas développer ça ici, mais forcément, c'est important. Donc tous ces musiciens ont tellement bouleversé en 1942, 1941, 43, 44 ont tellement bouleversé cette musique que forcément ça choquait et on ne pouvait plus danser sur le jazz. Mais il a fallu du temps et c'est devenu bien évidemment un des très très grands classiques du jazz, quoi, cette époque.
Merci Philippe pour ces précisions. Donc après, on continue. Il va commencer à enregistrer donc avec le label Blue Note en 1947, mais toujours pas de succès auprès du public. Donc il va connaître des années difficiles. Il se marie, il a deux enfants, et puis alors, en 1951, gros problème, il est arrêté en possession de drogue, et il se fait confisquer sa carte qui lui permettait de jouer dans les plus grands clubs de New York. Du coup, pendant 5-6 ans, il va aller à d'autres endroits moins connus, etc. Donc ça va être
tous
vraiment...
sont passés par là, pas que le monde. Ouais. Tous les boppers sont passés par là.
Mais alors lui, sans cette carte, il ne peut pas, il va pouvoir enregistrer, mais ça va être difficile, très difficile pour lui ces années-là. Donc on va écouter là un morceau qui a été enregistré dans cette période, le Blue Note, qui s'appelle Ask Me Now. Mais là, on écoute un enregistrement qui date de 1965. C'est difficile d'avoir les vieux, les premiers enregistrements, quoi. Vas-y, désolé. Thank you. Effectivement, une de nos auditrices préférées, MCC, nous signale qu'elle trouve les morceaux très mélancoliques, ce qui correspond effectivement à ce que tu viens de dire, Philippe.
Oui, c'est pas dansant. Voilà. C'est pas dansant. Et là encore, on est sur un tempo lent. Mais si on mettait un tempo rapide, aussi bien de Charlie Parker et de Dizzy Gillespie, là, vous dansez pas du tout. Donc effectivement, tout le public s'est assis. Et c'est devenu, à partir de ce moment-là, une musique qu'on a mis entre guillemets savante. Parce qu'il fallait l'écouter, on la dansait plus. Voilà, c'est comme ça.
Voilà, donc après, il va enregistrer avec un autre label, qui s'appelle le label Prestige, en 1952. Il va même participer aux albums de Miles Davis.
Ouais.
Mais là, c'est là où on va parler de ses inventions harmoniques. Alors, oui. Explique-nous.
Alors, on va essayer. Bon, ouais, c'est toujours pareil, je vais être obligé de faire des raccourcis, parce que là, sinon, il nous faudrait beaucoup...
La nuit.
Ouais. Enfin, je sais pas, la nuit, peut-être pas, mais il nous faudrait du temps. Donc, je vais essayer de faire le plus simple possible et essayer le plus compréhensible possible pour nos auditeurs. Jusqu'à la période swing, et même avant la période Nouvelle-Orléans, les musiciens improvisaient, on va dire, autour de la mélodie. Pour autant, il y avait bien évidemment des accords, puisque les pianistes ou les guitaristes ou les joueurs de banjo faisaient des accords, bien évidemment. Mais les chorusmen ou women, s'il y en avait, chorusaient surtout autour de la mélodie, c'est-à-dire qu'elles reprenaient la mélodie ou ils reprenaient la mélodie qu'ils mettaient dans un sens, dans un autre sens, etc. Avec l'arrivée de Gillespie, Parker et Thelonious Monk, on a commencé à travailler énormément sur les accords. On a ajouté... des septièmes, on a ajouté des neuvièmes, on a ajouté des onzièmes, on a travaillé sur le timbre, on a travaillé sur les dissonances, on a malaxé tout ça, on a fait ce qu'on appelle des renversements d'accords. C'est-à-dire qu'un accord, admettons, à trois sons, c'est do, mi, sol, et à un moment donné, ça fait mi, sol, do. Forcément, ça ne fait pas la même chose sur un piano quand vous plaquez ces trois notes-là ensemble. Donc, ils ont travaillé énormément sur tout ça. Donc, bien évidemment, si vous ajoutez le fait qu'on ne dansait plus, le fait qu'on changeait la partie harmonique, le fait qu'on jouait à tombeau ouvert, ou qu'on installait un climat comme ça un peu mélancolique, avec des tensions énormes, bien évidemment, on ne dansait plus beaucoup dessus. Donc, ça devenait une musique qu'on écoutait à ce moment-là. Et il a fallu quand même, jusqu'à l'après-guerre, même si Gillespie et Parker étaient reconnus, il n'y a pas de souci. Et puis Miles après, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas l'importance de l'époque swing des années 40, qu'on peut voir dans tous les films, partout, les grands big bands.
Merci, toutes ces explications.
Très intéressant, c'est bien.
Tout à fait, passionnant. Alors, on va écouter Blue Monk, qui a été enregistré en 1954, mais là, c'est un enregistrement de 1966. C'était Ask Me Now, enregistré donc en 47. Et après, il va quand même enregistrer avec le label Prestige en 1952, donc ça, on l'avait vu. Et il va aller pouvoir jouer en Europe en 1954. Il va arriver à Paris, où alors il se fait huer copieusement.
Ouais, comme, voilà. comme à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, quand les musiciens arrivent, Coltrane, ça a été pareil.
Il arrive, cette incompréhension du public. Mais à partir de cette période, il va faire une rencontre très importante dans sa vie, qui est Panonica, alors attention, je prononce comme je peux, hein, Panonica de Koenigswarter. C'était une grande mécène d'origine européenne, hein, puisqu'elle avait épousé un Rothschild. Elle vivait beaucoup à New York, et elle a énormément aidé les musiciens de jazz new-yorkais. D'ailleurs, Charlie Parker est décédé chez elle en 1955. Oui. Et il va conserver cette amitié avec elle jusqu'à la fin de sa vie. Alors, ça, y a pas... Donc c'est une rencontre très importante pour lui, ça. Dans les années 50. Et il va même composer un morceau qui s'appelle Panonica, donc que je vous propose d'écouter, mais à moins que tu aies encore...
Non, juste une toute petite précision, mais surtout ne prends pas mal, mon cher camarade, c'est comme en Blue Moon qu'on vient d'écouter.
Oui.
D'accord, c'est pas Ask Me Now, mais c'est pas grave. Hein.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Mais oui, je crois, mais ça c'est pas grave.
Hein.
Oui,
c'est bien.
Ah oui, pardon, excusez-moi, autant pour moi.
C'est effectivement enregistré en 66 dans une tournée européenne. Avec Charlie Rousse au saxophone ténor.
Ouais, on en reparlera. Ouais,
on en parlera. Juste simplement, je voulais, parce que sinon on va recevoir des milliers de courriers. Quand je disais tout à l'heure ils étaient à contrario de l'époque swing. Pour autant, effectivement, Monk demandait souvent à ses musiciens d'instaurer du swing à l'intérieur. Mais enfin, c'est pas la notion swing des grands orchestres des années 30 ou des années 40 qui faisaient danser les gens. Bien évidemment, les musiciens dans leur chorus essayaient de mettre du swing. Mais pour autant, essayer de vous lever et de danser sur le morceau qu'on vient d'entendre, surtout quand lui joue avec ses accords dissonants, ses renversements et tout ça, je veux dire, c'est pas forcément simple, quoi, pour ça. Mais voilà, je te redonne la parole et j'espère que tu ne m'en voudras pas.
Merci de m'avoir rectifié mes petites erreurs. Je t'en remercie.
Non, c'est pas ça, c'est parce qu'après on reçoit des milliers de courriers.
Oui, c'est vrai. On a des messages de partout qui nous disent... Bon. Donc là, on va écouter Panonica, qui est un enregistrement qui date de 1964. C'était Panonica, donc morceau composé en honneur de la baronne Panonica de Königswater, qui va l'aider donc toute sa vie. C'est ce qu'on avait dit. Et grâce à elle, d'ailleurs, il va récupérer sa carte, cette fameuse carte qu'on lui avait.
Oui, ce que je voulais juste rajouter, parce que c'est moi qui coupe les morceaux. Le jazz, c'est dommage, c'est des longs morceaux, on est obligé de les couper. C'était tellement beau, là, j'ai pas envie de le couper, quoi.
Voilà. Non, mais on les coupe pas, on va dire.
Ah, ben si, on est obligé quand même, parce que.
Ah, oui, c'est vrai que c'est un peu long. Si on en écoutait beaucoup, il faut faire des choix, on est d'accord.
On est obligé de faire des choix,
voilà. Voilà. Et donc, grâce à cette baronne, il récupère cette carte, mais. Il va faire une rencontre qu'un jeune saxophoniste que bien, c'est John Coltrane.
John Coltrane.
Avec qui il va enregistrer d'ailleurs un album. Mm. Donc sa
et
carrière.
Il va faire un concert.
Voilà, mais sa carrière va commencer, ça y est, elle va commencer à décoller. On est dans les années 55, 56, 57.
On est pratiquement 10 ans après.
C'était long à venir.
Tout le monde était en train de créer le bebop comme il pouvait, quoi.
Je vais simplement dire que malheureusement, sa carrière décolle au niveau financier, connaissance, etc. Mais il va encore avoir des déboires avec la police, qui est encore très raciste à l'époque, et qui malheureusement...
Même encore aujourd'hui.
Oui, tout à fait, on peut le dire. Qui lui enlève encore sa carte, mais moins longtemps, un an et demi, malheureusement. Mais du coup, il va enregistrer Coltrane un morceau qui s'appelle... Monk's Mood. Tu vas nous parler.
Oui, parce que c'est vraiment la rencontre de voilà. Je sais bien qu'on sur les superlatifs, mais c'est vraiment la rencontre de deux géants. Et en plus, ce qui est intéressant dans ce morceau, c'est que c'est un duo. Il n'y a pas de rythmique. La contrebasse va arriver juste à la fin du morceau par un contrebassiste qui s'appelle Wilbur Waugh, qui n'a pas forcément fait une carrière internationale, mais qui était bien connu dans les studios là-bas. Et ce morceau est intéressant parce que c'est vraiment un morceau à climat. Et vous allez pouvoir apprécier effectivement le style de Thelonious Monk au piano. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure, sur les accords et tout ça. Mais écoutez bien, parce qu'il utilise vraiment sa main droite et sa main gauche de la même façon et de temps équivalent. Enfin, ce qui n'était pas vraiment l'habitude avant, la main gauche était vraiment pour le rythme et la main droite c'était vraiment pour la mélodie. Et lui utilise vraiment les deux, donc forcément ça crée des climats, plus bien sûr l'immense John Coltrane.
Eh bien on écoute. Thank you. Voilà, c'était Monk's Mood. Et à partir de là, il va quand même rencontrer le succès, notamment en jouant au Five Spot Coffee, avec, toujours avec Coltrane. Hein, d'accord. Et ça lui permet, alors c'est incroyable, en 1959, il va enregistrer un album qui s'appelle The Thelonious Monk Orchestra à Town Hall. Alors Town Hall, c'était une salle de spectacle à Manhattan. Ouais. Et c'est un album qui comporte des arrangements, des compositions de Monk pour Big Band par Hall Overton. Ouais. Mais il faut savoir, enfin c'est un pianiste de jazz, hein, entre parenthèses, mais ce qui est très surprenant, c'est que les big bands qui étaient très populaires jusqu'au milieu des années 40 sont passés de mode dans les années 50.
Tout à fait.
Et eux, ils n'hésitent pas à se relancer parce qu'il faut former un groupe, il faut apprendre la musique, répéter pour un seul concert dans une seule salle, donc c'est pas simple. Et bien, ils se lancent dedans et c'est quand même un gros succès. Donc il commence par jouer trois morceaux avec son quartet, puis après il enchaîne avec l'orchestre. Et il va jouer notamment en direct avec Charlie House.
Oui.
Et parler peut-être.
Oui, parce que Monk a toujours été chercher des saxophonistes. Alors tout à l'heure, on écoutera avec Sonny Rollins. Là, on vient d'écouter avec John Coltrane. Et effectivement, Charlie House, qui l'a suivi pratiquement jusqu'à la fin de sa carrière.
Voilà, on va dire la fin de ses concerts.
Oui, la fin de ses concerts, qui a été un petit peu son dernier saxophoniste. Mais c'est un petit peu atypique dans le monde du pianiste jazz, puisqu'en général, ils privilégient souvent quand même le trio. Ils ajoutent rarement un saxophoniste. Ils ajoutent rarement un saxophoniste ou un trompettiste. Le pianiste aime bien souvent la formule du trio, la formule du solo. Juste, je pense que c'est important, mais on va très vite. Pour cet orchestre, quand même, il faut citer quand même les musiciens qui étaient présents, parce qu'ils n'étaient pas encore tous à maturité, mais beaucoup sont devenus des noms incontournables. À la trompette, Donald Byrd, donc exceptionnel. Phil Woods, à la saxophone alto, qui a été considéré longtemps comme le fils légitime de Charlie Parker. Notre ami Charlie House au saxophone. Piper Adams au saxophone baryton, qui lui aussi va explorer des domaines plus qu'importants dans les années 60-70. Sam Jones à la basse, qui était un contrebassiste incontournable à New York dans ces années-là. Également Art Taylor à la batterie, qui lui aussi était incontournable. Et je vais finir avec Eddie Baird au trombone, Robert Norton et c'est là que c'est intéressant, Robert Norton au French horn. C'est des instruments qui n'étaient pas du tout utilisés, qui ont été utilisés après, dans d'autres big bands, plus tard, dans les années 70-80. Et encore plus extraordinaire, un certain, moi je ne suis pas sûr de la carrière qu'il ait fait après, cet homme-là, Jay McLester au tuba.
Et pourquoi pas.
Qui était, mais à l'époque, c'était, tu voyais un tubiste arriver dans les années 50 sur scène, tu te demandais ce que ça venait faire là, quoi, voilà. Et donc, il a osé quand même tout ça. Il n'était pas le premier, il n'était pas le seul, mais quand même, il fallait le faire.
Voilà. Et bien, on va écouter un extrait de cet album qui s'appelle Little Rooty Tooty, qu'il avait composé pour un de ses enfants, d'ailleurs. On en reviendra. Vas-y. Thank you. Voilà, c'était Little Ruti Tutti. Vous êtes toujours sur Calade 100.9.
Je peux dire juste une oui. demi-chose, je te coupe. Vous avez entendu quand même les dissonances derrière au piano de Monk. C'était, enfin voilà, il faut avoir les oreilles bien accrochées, comme on dit. et ensuite, et je fais très court, les orchestres swing des années 40, les gens se levaient pour danser. Essayez de vous lever et danser sur. Même si c'est très beau et tout ça, mais je veux dire, essayez.
Et pourtant, c'est plus swing.
Oui, c'est plus swing, tu as raison. Mais déjà, seulement les dissonances, voilà. Tu te dis, tu vas
t'asseoir. Tout à fait, non, mais c'est formidable.
Alors, on va passer à un album qu'il a fait qui s'appelle Brilliant Corners. Alors, on dit que c'est un de ses meilleurs albums. Qu'est-ce que t'en penses?
Je sais pas. C'est toujours difficile, le meilleur, le pas meilleur, le plus beau, le plus. Je sais pas.
C'est toujours compliqué.
C'est toujours compliqué. En tout cas, c'est sûr, c'est un album qui a compté dans sa carrière, c'est évident. Mais enfin, est-ce que c'est le meilleur?
Mais bon. Écoute, on va écouter, puis on laissera les auditrices et auditeurs juger.
Sonny Rollins au ténor, quand même.
Donc, c'est parti.
Bien.
C'était Brilliant Corners, donc avec qui, Philippe?
Sonny Rollins, et puis j'en ai oublié un à la trompette. La trompette, pas du tout. au saxophone alto, Ernie Henry. Pareil, je ne suis pas sûr que ce soit un musicien qui fait une grande carrière, peut-être musicien de studio important à l'époque. Voilà.
Et puis après les années 60, où il a beaucoup de succès, Monk a un quartet plus régulier que donc Charlie Rose.
Le fameux.
Ouais, le fameux.
Mais entre autres. Oui. Parce que Ben Riley à la batterie et Larry Gell à la basse, qui eux aussi ont fait partie du quartet jusqu'à la fin de la carrière, pratiquement.
D'accord. Il va tourner en Europe, dans le monde entier. Mais alors, malgré ce grand succès, on semble que l'inspiration de Monk va s'épuiser, puisqu'il va surtout jouer des morceaux qu'il a déjà enregistrés, il va recomposer, enfin bon, c'est plus pareil, ça décline.
C'est-à-dire que le catalogue, il est quand même important.
Voilà. Donc, par contre, on va noter l'unique morceau en 3-4.
Oui.
Alors, tu nous expliques.
3-4, c'est 3 temps par mesure, si tu veux. Et puis, ça lui vient forcément. Enfin, forcément, je ne suis pas dans les petits papiers, mais c'est certainement d'une formation classique. Parce qu'effectivement, c'est une valse. Enfin, c'est la base d'une valse.
Il avait commencé avec du classique.
Voilà, donc peut-être qu'à un moment donné, il a voulu. Sinon, effectivement, tout son répertoire est en 4-4.
Bon, on va écouter le morceau. Il s'appelle Ugly Betty. C'est enregistré en 1967. Thank you.
let's really do one now. We're all sitting.
Huh?
Let's do one.
Yeah, I mean, we're just going to be so. Why you stop us for? Okay. See? I'm not necessarily stop. Where are we at? Where are we at before we so rudely interrupted?
Right after one piece of
talk. Well, you know. You finished, you know, we got. One or two, how do you feel?
Yeah. Oh, yeah. We'd start out and we do a take. And usually we take the first take. Sometimes we take the second, but never the third. You say once you play it the first time, that's where the feeling and everything is. And after that, it starts going downhill. So, and it's more like a challenge when you do that. You know that. You got to play it correctly the first or second take, or that's it. He would take it anyhow. If you mess up, well, that's it. you know, that's your problem. You have to hear that all the rest of your life.
Vous êtes bien sûr qu'elle a 109, donc vous venez d'entendre qu'effectivement, ils s'étaient un peu trompés, c'est
ouais,
ça ?
Oui, ils n'étaient pas trop d'accord sur le
prix. Ils ont repris l'enregistrement.
Mais c'est intéressant aussi de programmer ce genre d'événement, parce que ça désacralise un petit peu, si tu veux, ouais. Le côté, et oui, tout le monde qu'il était, tout Miles Davis qu'il était, tout Coltrane qu'il était, ils se trompent aussi parfois, ça leur arrive, ils sont comme tout le monde. Ouais. Et ça a été la grande mode, ça aussi, dans les années 90, on ressortait des disques avec des séances de studio qui n'étaient pas terribles, en fin de compte. Enfin, ouais.
Oui.
Moi, j'ai une question, Philippe. Enfin, pas une question, mais un petit peu une remarque, en fait. Quand j'entends cette musique, je comprends pourquoi les gens, ils ont un petit peu du mal à aimer le jazz qui n'est pas festif, parce que c'est pas festif. Donc, je comprends des fois quand les gens sont un peu réticents et disent, ouais, le jazz, et si et là. Effectivement, c'est technique, c'est comme ça, quoi.
Oui, oui, tout à fait. C'est au risque de redire, si tu veux, c'est que jusque dans les années 40, cette musique, avec la période Nouvelle-Orléans avant, était une musique de fête, une musique de danse, une musique, voilà. À l'arrivée des boppers dans les années 40, 41, 42, 43, ils ont tellement modifié l'harmonie, modifié les thèmes, enfin, ils ont tellement, ce que j'ai dit tout à l'heure, donc je vais pas le redire, que forcément, par la force des choses, le public s'est mis à écouter.
Et c'est toujours valable aujourd'hui.
Oui, bien sûr, c'est toujours valable.
On me dit souvent, tu sais, le jazz, ouais, c'est si, mais c'est comme ça, quoi.
Oui, on en a fait une musique dite savante, ouais. Où il faudrait connaître la musique pour l'écouter, mais non, il faut simplement essayer de retrouver ce fameux tempo, ce fameux, mais c'est pas simple, voilà.
Voilà, je voulais parler un peu du personnage, quand même, parce que quand il est devenu un peu célèbre, les commentaires sur ses excentricités ont été un peu exagérés. C'est-à-dire qu'on a inventé de toutes pièces un personnage un peu reclus, naïf, voire un peu idiot, alors que c'est un génie musical et dont le talent n'est pas le résultat de son travail, mais d'une intuition innée. C'est important. C'est vrai qu'il était peu loquace, on le voit dans les vidéos, il est toujours coiffé d'étranges chapeaux. Il avait un humour mal compris, c'est vrai qu'au début de sa carrière il était toujours en retard, c'était un peu son défaut, mais il avait ses raisons d'ailleurs pour ça. C'est vrai qu'il était un peu solitaire, il buvait beaucoup et il s'est drogué malheureusement au début de sa carrière, puis après il a arrêté. Et en fait, il a été diagnostiqué bipolaire, mais tardivement, en début des années 70, Et ce qui fait que c'est arrivé trop tard, le temps de faire les soins, etc. Et il a arrêté de ses derniers concerts en début des années 70. Et puis, il a terminé les six dernières années de sa vie, chez Panonica de Koenigswarter. Où là, alors, il joue plus de piano, il parle très peu, c'est vraiment la fin, quoi. C'est dommage. Et il subit une attaque cérébrale en février 82, donc il meurt quelques jours après. Mais je dois dire que Monk a toujours cherché à être original, autant dans son jeu que dans ses compositions.
Tout à fait.
Et son style a suscité les plus vives réactions. C'est pour ça qu'au début, il était mal compris, on va dire, comme ça. En fait.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Un peu accessible, comme tu disais, Dédé. Hein. C'est vrai que sa musique est difficile, peut-être un peu difficile d'accès, mais bon, c'était son style.
Il a introduit les dissonances. Et voilà. Donc forcément, c'était compliqué, quoi.
Il a bousculé la mélodie, l'harmonie, le rythme. Quoi, voilà. Ouais. Donc c'était comme.
Mais on a quand même de la chance
sur son temps, peut-être.
Tout à fait. Mais on a de la chance parce qu'on a quand même des traces télévisuelles de Monk. Donc si nos auditeurs veulent voir quoi ressemblait tout ce qu'on est en train de dépeindre aujourd'hui, il y a quelques concerts enregistrés dans la fameuse tournée forcément le Norwell en 66, mais il y en a d'autres, hein, d'autres images qui ont été prises aux États-Unis pour voir effectivement, pour étayer ce que tu es en train de dire sur sa personnalité. Qu'on voit dans son jeu.
De toute façon, Philippe, je pense que tous les amateurs de jazz connaissent.
Ah oui, oui, oui. Je pense à nos auditeurs qui éventuellement découvrirait aujourd'hui Monk pour étayer ce que dit Richard. Il y a des traces audiovisuelles on peut voir tout ce que tu es en train de dire.
Ce qui ne lui empêchait pas d'avoir une vie tout à fait ordinaire, une vie de famille, très
grave. Oui, tout à fait.
Ses deux enfants, son fils a été batteur, il a joué avec lui d'ailleurs.
Extraordinaire par rapport à cette époque, par rapport à ce genre de vie de musicien. J'ai vu, il n'a eu qu'une seule femme, il a toujours resté fidèle à sa femme.
Tout à fait.
Une vie tout à fait classique, en fait. Voilà.
Tout à fait. Alors, maintenant, on va parler du prochain concert du chien. Mais juste avant, malheureusement, j'ai été obligé de faire un appel aux dons pour notre association. Ouais. Parce qu'en effet, la reconduction d'une subvention financière importante qu'on attendait pour 2023 nous a été refusée. Alors, on a besoin de ces aides pour rémunérer les musiciens, parce qu'effectivement, la billetterie ne suffit pas. Du coup, notre situation est un peu difficile et on fait appel à votre générosité pour poursuivre notre activité et surtout à continuer à rémunérer les musiciens au mieux, quoi. On est d'accord.
De continuer à faire ces magnifiques concerts.
Voilà. Donc, le programme 2023 risque un peu d'être compromis. Je rappelle que si vous faites un don, vous pouvez bénéficier d'une défiscalisation de 66% par un particulier, 60% par une entreprise. Vous pouvez envoyer votre soutien soit par chèque au nom du chien 3 pattes 611 route de Croix-Rouge 60220 Belleville, soit directement lors du prochain concert le 17 décembre, ce samedi.
Ce samedi.
Où nous serons tous présents.
Au pêle-mêle.
Alors, effectivement, on est toujours au pêle-mêle café à 21h. Nous recevons un trio international avec un très grand pianiste. Non, pianiste, qu'est-ce que je dis ? Guitariste.
Enfin, il était guitariste ce matin.
Guitariste, je reprends. Voilà, il s'appelle Thijs Sommes, il est danois, il vit plutôt aux Pays-Bas. Il est en train d'émerger sur les scènes de jazz néerlandaises, entre autres. Donc c'est vraiment un concert à ne pas manquer. Et il est accompagné pour ça en trio avec un contrebassiste néerlandais. Attention pour la prononciation. Jörg Terwing.
On sent le froid là du nord. Là.
Ouais, ouais. Ouais. Et une batteuse sud-coréenne, Sun Myung. Alors ils vivent tous à Amsterdam.
Apparemment, elle fait le buzz.
Elle est connue comme l'une des batteuses et des chefs de file les plus créatives et ambitieuses des Pays-Bas. Attention. Voilà. Donc je pense que ça va être du lourd, comme dit Philippe. C'est un programme musical passionnant et une fraîcheur artistique qu'il fait bon entendre. Donc je rappelle, samedi 17 décembre au Café Pêle-Mêle à Montmerle-sur-Saône. À 21h, vous pouvez réserver votre repas avant, bien entendu, avec Karine et Rémi. Et pour ce qui était, on va écouter un extrait de ce morceau qui s'appelle « Deux routes bioscope ». Un peu difficile à prononcer.
Mais ça vient du Nord.
Voilà, et nous rendons l'antenne. Nous vous disons merci beaucoup de votre écoute, merci pour votre soutien, et bonne fête de fin d'année.
Et à très bientôt.
À bientôt, au revoir.
maintenant votre émission La Voix du Chien à trois pattes pour découvrir les jazz d'aujourd'hui.